Grand Angle.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, avec vous François-Xavier de Calonne, votre grand angle hebdo, l'actualité de ces 7 derniers jours, le sommaire. Elle célèbre cette année son centenaire, l'édifice de la Grande Mosquée de Paris, inauguré le 15 juillet 1926. Il s'agissait d'exprimer une reconnaissance, celle de la nation, pour les centaines de milliers de soldats musulmans venus défendre la France pendant la Première Guerre mondiale, comme l'a souligné le recteur Chemseddine Hafiz mardi lors d'une cérémonie de vœux. Vous l'entendrez. Un nombre de réfugiés en hausse, mais une demande d'asile en baisse. Les chiffres de l'immigration sont tombés cette semaine. Décryptage dans votre grand angle hebdo avec François Gémen, politologue et spécialiste des migrations. Près d'une agence immobilière sur deux accepte ou facilite une discrimination raciale dans l'accès au logement. Le gouvernement réagit, nous y reviendrons avec Zélie Errant, responsable juridique de SOS Racisme. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU lundi sur le renforcement du multilatéralisme. Comment faire vivre l'ordre multilatéral quand un homme semble enjamber tous les garde-fous pour parvenir à ses fins, le président des États-Unis. Question posée à David Rigoulet-Rose, docteur en sciences politiques, enseignant et chercheur à l'IFAS. La commission religieuse de la Grande Mosquée de Paris se réunira le 17 février prochain pour déterminer la date du début du mois de Ramadan en France. Le recteur Chemseddine Hafiz a présenté mardi soir dernier ses vœux pour 2026. Radio Orient était sur place, une cérémonie voulue comme le lancement de l'année du centenaire de la Grande Mosquée de Paris. Sous quel signe sera-t-il célébré? Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chemseddine Hafiz.
Nous regardons notre passé, puisque maintenant la Grande Mosquée de Paris entre, je dirais, dans ce centenaire. Donc cela fait 100 ans, dans des conditions particulières. La mémoire de celles et ceux musulmans qui sont morts pour la France durant la Grande Guerre, ça a été ce magnifique cadeau qu'a fait la République aux musulmans de France, dans un lieu prestigieux qui est le quartier latin, jouxtant le jardin des plantes, pas très loin de Notre-Dame de Paris, pas très loin du Panthéon. Et donc, aujourd'hui, je voudrais, comme message, me projeter dans l'avenir. Et surtout, parler aux jeunes musulmans. Je voudrais que les jeunes musulmans soient fiers de leur appartenance à cette religion.
Quand vous voulez leur parler, aujourd'hui, spécialement?
Écoutez, avec... je dirais toute cette islamophobie régnante, ce discours haineux qui aujourd'hui pointe du doigt les musulmans, je voudrais leur dire, un, ne baissez pas les bras, vous êtes des citoyens dans la République et votre foi musulmane en aucun cas ne vous réduit à quoi que ce soit. Bien au contraire.
Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Maître Chemseddine Hafiz. Le ministère de l'Intérieur a publié cette semaine son rapport annuel sur l'immigration. Les chiffres révèlent une hausse des interpellations et des expulsions, mais aussi davantage de titres de séjour octroyés. Plus de 190 000 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés en France en 2025. Une hausse de 30% par rapport à 2024. Des chiffres publiés par la Direction générale des étrangers en France. Elle dépend du ministère de l'Intérieur. François Gémen, politologue, spécialiste des migrations.
La perception de l'immigration va être très très différente selon l'endroit où vous habitez, selon les personnes étrangères ou d'origine étrangère avec qui vous interagissez au quotidien, et parce que on sait qu'il y a effectivement ce sentiment qui est amplifié par les médias selon lequel l'immigration serait complètement hors de contrôle et chaotique. La réalité des chiffres, évidemment, ne montre pas cela. On aurait tort de nier les chiffres de l'immigration, notamment la hausse de l'immigration. Mais cette idée d'une migration hors de contrôle est largement amplifiée par les médias. Donc oui, il y a ce décalage qui est très très fort et qui est bien documenté.
Oui, vous évoquez cette hausse. Les octrois de nouveaux titres de séjour sont en hausse de 11,5% par rapport à 2024, hein, avec 384 230 titres pour être très précis. Alors, cette augmentation s'explique notamment par la multiplication des titres de séjour pour motifs humanitaires. Qu'est-ce que cela signifie dans les faits?
Ce sont en réalité des personnes qu'on accueille parce qu'ils fuient des crises dans leur pays d'origine. Et malheureusement, ces crises ont tendance à se multipliée. C'est notamment évidemment le cas en Afghanistan, c'est le cas en Syrie, c'est le cas en Ukraine. Et effectivement, une des raisons pour laquelle ce chiffre a augmenté, c'est le fait que nous avons protégé davantage d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes en particulier qui fuyaient la guerre. Et donc, sous le motif humanitaire, on va regrouper à la fois ceux qui sont en situation de réfugiés et les personnes qui ne peuvent pas prétendre au titre de réfugiés, mais qui en ont même besoin d'une protection.
François Gémen, politologue spécialiste des migrations. Près d'une agence immobilière sur deux accepte ou facilite une discrimination raciale dans l'accès au logement. Le résultat d'un testing dévoilé par SOS Racisme, l'association est coutumière de ce type de campagne. SOS Racisme a contacté 198 agences des discriminations dénoncées par le gouvernement. La ministre déléguée chargée de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, annonce la mise en place d'une formation obligatoire sur les discriminations pour tous les agents immobiliers. Aujourd'hui, une formation est obligatoire uniquement pour les détenteurs d'une carte professionnelle. Cela représente moins de la moitié des agents. La ministre assure qu'un décret sera signé dans les toutes prochaines semaines avec le ministre du Logement. La réaction de Zélie Errant, responsable juridique de SOS Racisme.
Pour nous, c'est une victoire pour l'association parce que, en effet, il y avait, c'est une avancée. Il y avait un trou dans la raquette parce que c'était uniquement pour les agents qui avaient des cartes professionnelles. Donc là, on va voir qu'il y aura donc des centaines de milliers de personnes qui seront formées et qui devront être formées. Parce que, en fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on voyait qu'il y avait qu'une minorité en fait, des personnes qui travaillaient dans les agences immobilières qui étaient formées. Donc, même si on est vraiment. On salue cette avancée et. On continuera, nous, à évaluer en fait, l'impact aussi de ces formations en refaisant des testings. Et on pense aussi que ce n'est pas tout ce qu'il faut faire. On pense aussi qu'il faut mettre en place d'autres sanctions et d'autres obligations de prévention. Par exemple, une obligation d'information des utilisateurs quand ils sont sur des sites internet ou alors imposer aux professionnels de l'immobilier une obligation d'information des propriétaires sur le droit à non-discrimination. Et ensuite, en termes de sanctions, parce que c'est bien beau de faire des testings et de mettre en lumière ces discriminations, mais il faut surtout en fait, mettre en place des actions pour éradiquer ces discriminations.
Donc, justement, aujourd'hui, que risquent les agences qui pratiquent ce type de discrimination ?
Alors, aujourd'hui, donc, la discrimination, donc, comme vous l'avez rappelé, et comme ça avait été rappelé par... la ministre, aujourd'hui, la discrimination, elle est interdite par le code pénal les personnes, donc les agences ou les personnes qui commettent des discriminations, ça peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Dans les faits, est-ce qu'il y a des exemples de personnes condamnées à de telles peines ou alors ces peines sont rarement mises en œuvre ?
Ces peines sont très rarement mises en œuvre.
C'était Zélie Errant, responsable du pôle juridique au sein de SOS Racisme. Le début de cette semaine, marqué par une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le renforcement du multilatéralisme. Alors comment faire vivre l'ordre multilatéral quand un homme semble enjamber tous les garde-fous pour parvenir à ses fins, le président des États-Unis ? Réponse de David Rigoulet-Rose, docteur en sciences politiques, enseignant et chercheur à l'IFAS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.
Et c'est une crise profonde du multilatéralisme qui était déjà sous-jacente lors du premier mandat du président Donald Trump, mais qui là prend une ampleur sans précédent. Donc il y a eu une vraie rupture qui est en train de se produire et effectivement qui remet en cause tous les fondements multilatéraux qui géraient les relations internationales depuis la seconde moitié du XXe siècle. Le président américain a confirmé le 8 janvier 2026 qu'il se retirait de quelque 66 institutions multilatérales, parmi lesquelles 31 organismes relevant de l'ONU et 35 institutions non-onusiennes, mais avec une culture effectivement multilatérale. Et donc c'est tout ce qui représente ce multilatéralisme qui est voué aux hégémonies par le président Donald Trump. Alors, il y a des indicateurs. Hein. Le 4 février 2025, il y avait déjà la sortie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et puis l'invalidation, effectivement, de l'UNRWA, c'est-à-dire l'organisme gérant l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Et puis, en juillet, le 22 juillet de dernier, c'était l'annonce de la sortie de l'UNESCO concernant le patrimoine mondial, avec l'idée d'un patrimoine commun à l'humanité. Donc, c'est l'idée de s'extraire de tout ce qui peut relever du multilatéralisme considéré comme une entrave, on va dire, à une marge de manœuvre purement nationale américaine.
Qui a les moyens de faire face à cela aujourd'hui ?
Personne. En réalité, le président Donald Trump peut faire figure d'une certaine manière, entre guillemets, de grand liquidateur de l'ordre international post-45. Paradoxe, c'est un ordre qui avait été largement façonné par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, avec la charte onusienne et puis les grands organismes multilatéraux type FMI, Banque mondiale. C'est précisément tout ça qui est remis en cause. Donc il y a des enjeux de gouvernance globale qui sont évidemment posés parce que ça induit des conséquences systémiques et personne n'est en mesure en réalité d'empêcher cette déstabilisation du multilatéralisme qui paradoxalement se trouve réinvesti par des pays comme la Chine, justement, qui se font fort de s'inscrire en faux et de vouloir maintenir une logique multilatérale, alors même qu'elle est largement ébranlée aujourd'hui.
C'était David Rigoulet-Rose, docteur en sciences politiques, enseignant et chercheur à l'IFAS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Fin de votre grand angle hebdo. Un grand merci pour votre fidélité. Excellente suite des programmes à l'écoute de Radio Orient. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission sur les réseaux sociaux de votre radio et bien entendu sur votre site internet radioorient.com.
C'était Grand Angle.